Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, les grèves oubliées de 1947, chronique d'une France de l'après-guerre chahutée par l'histoire, ballottée entre l'Est et l'Ouest. Le pays connaît alors deux grandes vagues de grèves, d'abord au printemps, puis celle beaucoup plus violente en novembre-décembre. 3 ans à peine après le traumatisme de l'occupation, dans les balbutiements d'une 4e République instable, le pays connaît une crise sociale et politique majeure. 1947, c'est une période qu'on imagine volontiers dans un noir et blanc charbonneux, où les ouvriers portent des grosses moustaches et travaillent 45 heures par semaine pour gagner quelques sous. Une période où la France recompose sa puissance industrielle. Les enfants des campagnes partent en ville où ils peuplent les lignes de production des grandes usines. Car il faut reconstruire le pays, quitte à sacrifier une génération. Alors, comment cette grève est-elle née ? Quelles ont été les tractations et les alliances ? Comment les gouvernements successifs ont-ils géré la crise ? Mais aussi, et peut-être surtout, quel rôle ont joué les dynamiques politiques internationales ? Notre invité aujourd'hui, Robert Menkériné, historien, auteur du livre « Guerre froide, grève rouge » paru aux éditions Sileps. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Guillaume Malandras, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacoboviez.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Pourquoi la grève ?
Pour faire aboutir nos revendications. Puisque c'est notre dernière arme, c'est l'ultime. La discussion, bien souvent, n'amène rien. Et il faut bien qu'on trouve un moyen. Quel moyen que nous avons, nous, ouvriers, pour lutter contre un patron ? Ben, c'est de lui bloquer ses moyens de production. C'est quand même nous qui les faisons marcher, ces moyens de production. Si on lui bloque ses moyens de production, il faut bien qu'on l'amène à changer d'attitude. La grève, pour moi, c'est la seule arme que la classe ouvrière a. Possède. Elle n'a rien d'autre.
Février 1947, Boulogne-Billancourt. Sur l'île Séguin, les chaînes de production de la grande usine Renault tournent à une cadence infernale. Le tout nouveau modèle de la marque, la 4 chevaux, petite voiture aux courbes rondes qui fera le bonheur de millions de Français, s'apprête à envahir le marché. Dans les vastes hangars du bord de Seine, sur un peu moins de 11 hectares, 30 000 salariés se relaient jour et nuit, une ville dans la ville. Et c'est un haut lieu du syndicalisme, bien sûr. La CGT y revendique 17 000 cartes et s'imagine toute puissante. Proche du Parti communiste, ce syndicat sous-estime largement les révolutionnaires qui s'agitent dans quelques recoins d'usines. Parmi eux, l'Union communiste, un petit groupe trotskiste qui se compose d'une dizaine de membres actifs dans le secteur Colas, là où on fabrique les boîtes de vitesse, entre autres. Dans le département 49, celui du montage des moteurs, un petit collectif anarcho-syndicaliste de la Confédération nationale du travail s'est constitué. Dès mars 1947, des réunions ouvertes sont organisées par ces groupuscules. Elle rassemble très vite une cinquantaine de personnes. On y décide bientôt de lancer une revendication rassembleuse, précédemment brandie, puis abandonnée par la CGT, une augmentation de 10 francs sur le salaire de base. À partir de la mi-avril, la revendication commence à prendre dans le secteur Colas. Le 24 avril, le gouvernement Ramadi annonce la mise en place d'une nouvelle loi. La ration de pain journalière du travailleur passe de 300 à 250 grammes par jour. Et ça, c'est l'étincelle. À l'issue d'une AG improvisée, un comité de grève est constitué. Le lendemain, vendredi 25 avril, dès 6h30, les ouvriers du secteur Colas débrayent, coupent l'électricité, mettent en place des piquets et lancent un appel à la mobilisation au reste de l'usine. La production est bloquée. Le camarade Plaisance, un dirigeant local de la CGT, foudrage. Dans un discours improvisé à l'entrée de l'usine, il éructe sa logorée. Ce matin, dit-il, une bande d'anarcho-hitléro-trotskistes a voulu faire sauter l'usine. La CGT, comme le PCF, veulent tuer le mouvement dans l'œuf. Hors de question qu'il leur échappe. Alors pour eux, Le mot d'ordre est clair, produire d'abord, revendiquer ensuite. Oui, la France et la classe ouvrière ne peuvent se relever de la guerre qu'en produisant plus, et la grève est un crime contre le prolétariat. Le relèvement de la patrie passe avant tout, et la lutte des classes est bannie des lieux de production. La grève, c'est l'arme des trusts, clame le secrétaire général du PCF, Maurice Thorez. À l'intérieur des entreprises, la courroie de transmission du parti, c'est bien la CGT, qui revendique 5,5 millions de syndiqués. Dans tout le secteur productif, elle cogère la production, pousse les cadences, veille à la modération salariale et, s'il le faut, empêche les grèves. Pourtant, sur l'île Séguin, la modeste grève se propage. Ils sont d'abord 3 000 ouvriers à arrêter le travail, 10 000 le lendemain, puis 12 000 sur les 30 000 travailleurs du site. En seulement 4 jours, la paralysie est totale. Des bagarres éclatent entre cégétistes et grévistes. Et toute la presse fait l'écho de la grève chez Renault, à l'image de ce reportage des actualités françaises.
Effervescence dans le monde du travail. Les usines Renault, qui emploient quelque 30 000 ouvriers, se sont mises en grève. Commencée dans quelques ateliers, la grève s'étendait peu à peu à l'usine entière. La CGT décidait alors d'appuyer le mouvement. Et la grève des usines Renault, devenue la question du jour, mettait en cause l'existence même du gouvernement.
Fleuron de l'industrie automobile, Renault est une entreprise symbole des grandes nationalisations de l'après-guerre. 1945, année zéro. Le conflit redessine les contours géopolitiques. Et en 1947, un trouble immense agite le monde occidental. Les relations entre les alliés d'hier se crispent. Aux USA, le tout nouveau président Truman prend ses distances avec Moscou. Plantée entre deux empires qui jouent des coudes, l'Europe est bientôt coupée en deux. Le plan Marshall, proposé par les Américains, doit relancer l'économie du continent en échange d'une alliance politique et militaire durable. Il est refusé par Staline, évidemment. Et pour les Américains, il faut contenir la doctrine communiste dans le monde libre.
Une ombre obscurcit le monde, récemment illuminée par la victoire des Alliés. Personne ne sait où la Russie soviétique et le communisme international veulent en venir dans l'immédiat, ni quelles sont les limites, s'il y en a, à leur expansionnisme et à leur prosélytisme. De Stettin, sur la Baltique, à Trieste, sur l'Adriatique, un rideau de fer s'est abaissé à travers le continent.
Le lendemain de la guerre en France est tout aussi agité. D'abord, le pays applique le programme du Conseil national de la Résistance, matrice du fameux modèle social français, et grâce aux communistes, de formidables avancées voient le jour, comme le tout nouveau régime général de la Sécu. Dans cette quatrième république encore jeune et fragile, des gouvernements de conciliation se succèdent, dans lesquels les trois grands partis de l'époque sont associés. Le MRP, démocrate chrétien, centriste, la SFIO, ancêtre du PS, et le PCF. Ce dernier est sorti grandi de la guerre. Et en 1947, il est à l'apogée de sa puissance. 800 000 adhérents revendiqués, premier parti de France, avec 28,3% aux législatives, un poids lourd. Politiquement, le PCF se situe sur une ligne pro-stalinienne, et on peut même dire qu'il est piloté par Moscou. Mais le parti joue aussi le jeu parlementaire, démocratique, et se partage le pouvoir avec les deux autres grandes formations politiques. Le 16 janvier 1947, le Parlement réuni à Versailles élit Vincent Auriol à la présidence de la République, qui désigne un autre socialiste, Paul Ramadier, comme président du Conseil.
Le 16 janvier, tous les parlementaires fraîchement élus de la toute jeune République, qu'ils soient députés à l'Assemblée nationale ou conseillers de la République, sont réunis solennellement en congrès à Versailles. Comme on s'y attendait, c'est M. Vincent Auriol, président de l'Assemblée nationale, qui est élu au premier tour, avec 452 voix sur 883 votants, soit la majorité absolue. Après avoir reçu les félicitations de Léon Blum, le nouveau président, qui porte gaillardement ses 62 ans, part en cortège solennel et officiel pour s'installer au palais de l'Élysée, déserté depuis 7 ans. et qui accueillera ainsi son premier président socialiste. Le premier président du Conseil sera Paul Ramadier, un Aveyronnais, socialiste et franc-maçon de 59 ans. Un des rares parlementaires du Front populaire à avoir refusé les pleins pouvoirs au maréchal Pétain avant de s'illustrer dans la résistance sous le pseudonyme de Violette. Le 21 janvier, Paul Ramadier est investi à l'unanimité des 549 députés de l'Assemblée nationale.
En France, en 1947, deux ans après la capitulation nazie, on souffre toujours de la faim et du froid. Mais oui, pendant le dernier trimestre de l'année 46, les prix ont augmenté d'environ 50%. Le 10 octobre 1947, un journaliste du Gazier de Paris écrit
« 250 grammes de pain pour un travailleur. Qui aurait pensé que trois ans après la libération, alors que les ouvriers ont fait preuve de beaucoup de courage pour assurer leur service, nous en serions réduits à cette solution. »
Au sein de la population, la rancœur persiste contre un gouvernement qui n'en finit pas de promettre une amélioration des conditions de vie. Inflation, tickets de rationnement et marché noir entretiennent un mécontentement croissant. Quelques semaines après sa désignation, le nouveau président du Conseil, Paul Ramadier, prend la parole lors d'une allocution radiophonique.
Aujourd'hui, le gouvernement se dresse avec toute l'autorité de l'État. Et j'en suis sûr, avec la puissance irrésistible de l'opinion publique, pour dire à la hausse, non, tu n'iras pas plus loin. Non seulement tu n'iras pas plus loin, mais désormais, tu vas reculer.
L'offensive est déclenchée. Il faut substituer à la psychose mortelle de la hausse une sorte d'émulation pour la baisse. Et tous les secteurs de l'économie française suivront le mot d'ordre, baisse de 5%. Le cycle infernal doit être brisé.
Comme le montre ce reportage, début 47, le coût de la vie est beaucoup trop élevé pour une majorité de Français. Le blocage des salaires et la flambée des prix provoquent la colère des ministres et parlementaires communistes. Et puis il y a l'empire colonial. La guerre d'Indochine, entamée dès décembre 1946, voit les soldats français combattre les indépendantistes communistes regroupés derrière Ho Chi Minh. L'intervention est de ce fait très mal vécue par un parti communiste toujours plus mal à l'aise dans cette cohabitation tripartite. Conséquence directe, à l'Assemblée, les députés communistes ne renouvellent pas leur confiance au gouvernement. Le 4 mai 1947, les ministres communistes ont congédié. Leur départ sonne le glas d'une période d'innovation sociale incontestable. Dans la foulée, le Parti communiste français se rallie au mouvement gréviste et la CGT en revendique aussitôt la direction. Quatre jours plus tard, le 8 mai, le gouvernement acculé accorde 3 francs d'augmentation aux ouvriers. Le 9 mai, les CGTistes font voter la reprise du travail aux 2/3. Finalement, le 15, le gouvernement concède une prime de 1600 francs et une avance de 900 francs pour tous les salariés. La grève chez Renault prend fin. Dans le pays, les pénuries persistent et le pouvoir d'achat n'augmente pas. Pire, la situation économique s'aggrave. Avec la reconstruction, les profits des entreprises ont quintuplé, mais l'inflation de plus de 60% fait grimper les prix. Les augmentations de salaire ne suffisent pas à combler l'écart. Alors, dès le 2 juin 1947, la grève s'étend sur de nouveaux secteurs productifs et de nouveaux foyers s'installent. D'abord, les cheminots, rapidement rejoints par les employés d'EDF, de Citroën, de Berliet et de Peugeot, les commerçants, puis les employés de banque et les mineurs. Le mouvement devient national, plus particulièrement dans des régions très industrialisées comme le Nord-Pas-de-Calais.
Et les grèves sporadiquement continuent. Hier, c'était les houillères. Protestant contre l'insuffisance des salaires et contre les projets fiscaux du gouvernement, le peuple des mines a cessé le travail. De puits en puits, l'immobilité s'est installée sur la totalité du bassin houillé du Nord et du Pas-de-Calais. Pendant 8 jours, le silence a régné sur le royaume du charbon qui a aujourd'hui repris son activité. Problème des salaires, problème des impôts, problème de la production, problème de la vie chère.
Durant l'été 47, la CGT, le Conseil du patronat français, le CNPF, entre en négociation. Une augmentation de 11% des salaires est décidée. « Pendant ce temps, à l'est, du nouveau. Suite au discours de Truman, Moscou change de tactique. L'heure n'est plus à la coexistence pacifique avec l'Ouest, mais à la confrontation. En octobre, lors d'un congrès réunissant 9 partis communistes européens, les soviétiques vilipendent des camarades français et italiens qui, depuis 1945, se sont laissés aller au crétinisme parlementaire. La lutte des classes reprend ses droits sur un échiquier politique nouveau, celui de la guerre froide. En France, le Parti communiste est tiraillé entre la voie légaliste et les tentations révolutionnaires. Pour le parti, soutenir la grève est un moyen de pression politique, comme pour dire au gouvernement que la présence des communistes est nécessaire à la stabilité du pays. Et puis, il y a aussi ce De Gaulle, dont ils craignent un éventuel retour. À juste titre, puisque de son côté, le héros de la France libre se revoit déjà en sauveur de la patrie. Partisan d'une France éternelle, il milite pour un exécutif fort et dénonce une 4e République malfagotée qui laisse trop de pouvoir au parti. Le général crée donc ce qu'il a tant vilipendé, un parti, le RPF. Ni de droite, ni de gauche, centré sur la figure de l'homme du 18 juin, le RPF se fait vite une place de choix dans la turbulente vie politique. Les municipales d'octobre 47 sont l'occasion d'un premier coup d'éclat. C'est un raz-de-marée pour les gaullistes qui s'emparent notamment des mairies de Paris, Bordeaux, Marseille, excusez du peu. Une forte tension politique s'installe alors dans tout le pays entre gaullistes et communistes. L'union des forces réunies dans la résistance vole en éclats. Cette déchirure se cristallise notamment à Marseille. Dans la cité phocéenne, c'est le RPF Michel Carlini qui ravit la mairie au favori communiste Jean Christoffel, à quelques voix près grâce à l'abstention des socialistes. Le 4 novembre 1947, à peine arrivé en fonction, Carlini fait augmenter le tarif du carnet tramway de 35 francs, il passe à 50. La différence est énorme. Alors très vite, des petits groupes de Marseillais descendent dans la rue pour protester. Le lundi 10 novembre 1947, l'arrestation de quelques manifestants provoque la colère de nombreux sympathisants. La une du quotidien régional du Parti communiste Rouge Midi est sans appel.
Les Marseillais ont engagé la bataille face aux fauteurs de vie chère. En dépit des forces de police considérables, ils ont manifesté contre le carnet à 50 francs. 5 travailleurs arrêtés. Exiger leur libération immédiate. Continuer à ne pas payer l'inadmissible tarif des tramways. Le gouvernement conduit notre industrie à la catastrophe.
Des feux mal éteints. Le mouvement du printemps se réactive. Bientôt, des milliers de manifestants marcheront dans les rues du centre-ville.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée. Cheminée muette, portail verrouillé. Wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons, mon sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares. Rocher rouge saigné sur l'espoir. On dirait le soir des navires de guerre battus par les vagues. Rongé par la mer, tombé sur le flanc, giflé des marées, vaincu par l'argent, les monstres d'acier, je voudrais être. Travailler encore, travailler encore. Forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore. Acier rouge et mains d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or.
Le mercredi 12 novembre 1947, au petit matin, les manifestants se regroupent devant le palais de justice de Marseille, où doit avoir lieu le jugement des 5 syndicalistes arrêtés. Pourtant, ils sont laissés en détention. Et lorsque le verdict tombe, une sombre colère collective s'abat sur le centre-ville. Le tribunal est envahi, puis la mairie. Le soir venu, de jeunes manifestants cégétistes saccagent quelques boîtes de nuit sur le Vieux-Port. Car ces établissements symbolisent pour eux le gaspillage et la corruption de la municipalité. Furieux, quelques nerfs vifs proches du milieu marseillais du clan Guéry mitraillent les manifestants. Le jeune Vincent Voulant, ouvrier communiste, est tué et plusieurs personnes sont blessées. Le lendemain, 13 novembre, le quotidien Rouge Midi titre.
Arrêt total du travail. Chez les métallurgistes, marins, dockers, ouvriers du bâtiment et des produits chimiques. La grève s'étend partout. Les travailleurs, par dizaines de milliers, manifestent devant le palais de justice et arrachent la libération de leurs camarades emprisonnés. Le soir, les nervis de l'Opéra, souteneurs du RPF, tirent sur les patriotes. Le jeune Vincent Voulant est décédé, 4 blessés. Châtiment impitoyable pour les assassins. Fermeture des tripots et des boîtes de nuit. Au travail, les oisifs.
Le journal L'Étincelle, hebdomadaire proche du RPF, soutient évidemment un tout autre point de vue. Dans son édition du 22 novembre 1947, il écrit
« Pillage en règle, meurtre ». Tel est le sinistre bilan de l'action des séparatistes chassés de la mairie de Marseille par le peuple. Les gangsters staliniens n'auront pas le dernier mot. Force doit rester à la loi. L'émeute de Marseille est l'application servile des consignes du Cominform. Susciter les troubles, créer partout l'anarchie, faire couler le sang des Français, paralyser la production, réduire la population à la famine... Telles sont les mesures préparatoires à la révolution bolchévique qui instaurera demain chez nous, si l'on y prend garde, la dictature du prolétariat soviétique.
Ce meurtre entraîne une vague d'indignation dans tout Marseille. Et en réponse, le travail est arrêté le 12 novembre au matin. Les assemblées générales d'ouvriers décident à une forte majorité le principe de la grève générale. À Paris, le même jour, le comité national de la CGT établit un constat d'échec sans appel des politiques salariales. Il exige un minimum vital mensuel de 10 800 francs, une augmentation des salaires avec révision automatique tous les 3 mois, indexée sur le coût de la vie et de l'inflation. Le vendredi 14 novembre 1947, les obsèques du jeune Vincent Voulant se déroulent à Marseille. Elles sont l'occasion d'une extension du mouvement. Un cortège de plusieurs milliers de personnes part de la Bourse du Travail pour rejoindre le convoi funèbre devant les aciéries du Nord avant de l'accompagner jusqu'au cimetière Saint-Pierre. Les commerçants tirent les rideaux, les tramways sont immobilisés, les hommes retirent leurs chapeaux. Ce même vendredi 14 novembre, à l'autre bout du pays, Léon Delfos, mineur et cégétiste, est révoqué de ses fonctions d'administrateur des charbonnages de France pour avoir critiqué l'action du gouvernement. Mais il se trouve que l'homme est respecté, très apprécié dans les mines du Nord-Pas-de-Calais. Alors dès le lendemain, plus de 1 500 mineurs arrêtent le travail.
L'agitation s'était étendue aux mines du Nord, où 80% des mineurs avaient abandonné les puits. Cependant, dans tous les domaines, la grève se heurtait à des oppositions ouvrières. Et l'on constatait, après l'amorce d'une reprise dans le Nord, une extension du mouvement dans le Sud.
Et comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement Ramadi décide à la même période d'augmenter les prix, plus 45% sur le gaz, 25% sur les tickets SNCF, métro à 5 francs, carnet de bus à 50, l'assommoir. Trois jours plus tard, la grève se propage dans tout le bassin minier du Nord. Le lendemain, les blocages gagnent la métallurgie parisienne. Les renseignements généraux s'inquiètent. Et du côté du pouvoir, on craint d'avoir à revivre les troubles d'avril-mai. Le gouvernement ne sait plus comment répondre aux poches de révolte, à la crise générale qui ne dit pas son nom, à l'insurrection qu'on craint de voir éclater. Le mercredi 19 novembre, l'Humanité appelle à l'extension nationale du mouvement et titre « Tous derrière les métallos de la région parisienne, bataille des 25% contre la politique de famine du parti américain ». Le parti américain. Il s'agit de la SFIO, qui soutient le plan Marshall et qui milite pour une reprise immédiate du travail. C'est alors que la crise prend un tournant politique, car le même jour, le gouvernement Ramadier est contraint à la démission.
Monsieur Ramadier, après un an d'efforts, se résignait à passer la main et remettait sa démission. Et à l'Assemblée nationale, monsieur Léon Blum demandait son investiture en attaquant à la fois le Parti communiste et le RPF. N'ayant pu réunir une majorité, M. Blum se retirait. C'est alors que le président de la République faisait appel à M. Robert Schuman, ministre des Finances du précédent gouvernement. Et ayant obtenu par 412 voix contre 184 l'assentiment de l'Assemblée, M. Robert Schuman allait en pleine nuit présenter à l'Élysée son ministère. La tâche du nouveau gouvernement, selon les paroles de son chef, sera d'abord de réduire les grèves.
Le 23 novembre, 2 millions de grévistes descendent dans la rue. Le 28, la CGT forme un comité central de grève regroupant 4 millions de travailleurs qui coordonnent les opérations. Dans la région parisienne, la quasi-totalité des 100 000 métallurgistes interrompt le travail. Même chose dans le Nord, on compte environ 90% de grévistes chez les travailleurs du sous-sol. En province, les arrêts de travail se multiplient dans tous les secteurs productifs du pays. Alimentation, céramique, bâtiment, cuirs et peaux, textile, chimie, métaux, mines de charbon, verre, papier et carton, la colère gagne aussi les ports de France. Les grandes entreprises nationales stoppent l'activité, les centrales électriques parisiennes arrêtent de fonctionner, le pays est paralysé.
À Paris, mais pour un jour seulement, la grève ayant touché les centrales électriques, le métro s'arrêtait par manque de courant, livrant ses innombrables usagers au hasard d'une chasse aux véhicules. Au milieu de ces avatars, la chambre convoquée pour prendre des décisions d'ordre public siégeait sans désemparer jour et nuit. Atmosphère tendue, climat de trouble.
De son côté, le nouveau gouvernement Schuman tente de jouer l'apaisement et propose une indemnité exceptionnelle de vie chère d'un montant de 1500 francs. Insuffisant, clament les grévistes. Ils insistent pour que leur salaire soit revu à la hausse chaque trimestre en cas d'inflation. Gilles Moc, le nouveau ministre de l'Intérieur, ferme et têtu, se prononce pour une action musclée. Il déclare au préfet « Si la persuasion ne donne aucun résultat, il faudra prendre toutes les mesures de police utiles pour faire procéder à l'évacuation des locaux occupés et faire respecter la liberté du travail avec l'appui de la force publique. » En langage courant, foncez dans le tas. Pour le gouvernement, c'est clair, le mouvement doit être dissous. Le 29 novembre, à l'Assemblée nationale, un projet de loi est discuté. Il prévoit un rappel des réservistes et une aggravation des peines en cas d'entrave à la liberté du travail. Les affrontements gagnent ainsi l'hémicycle. Les députés communistes utilisent tous les moyens possibles pour empêcher le vote de ces lois dites scélérates. Le pays est disloqué, au bord de l'implosion. Certains éléments deviennent même carrément incontrôlables.
Climat de trouble, c'est l'atmosphère de cette semaine. Dans les mines du Nord, où l'effervescence continue, les compagnies de sécurité ont dû intervenir pour libérer les puits des piquets laissés par les grévistes pour empêcher tout travail.
Les forces de police, munies du matériel anti-gaz, n'ont pas eu la plupart du temps à faire usage de la force. Mais en d'autres endroits, l'épreuve a pris un caractère nettement dramatique. Car en dehors de l'opposition ouverte, le sabotage, sous toutes ses formes, a pris sa place dans l'agitation. Près d'Arras, l'express postal Paris-Tourcoing a déraillé par suite de l'action de criminels anonymes qui avaient déboulonné les rails sur 25 mètres. 24 morts, une quarantaine de blessés. Tel est le bilan de cet attentat abominable que toutes les consciences françaises se doivent de flétrir. Sporadique, fluide, l'agitation continuait dans les coins les plus divers du territoire, contrée par les forces de sécurité. Dans la banlieue parisienne, comme dans certaines villes de France, des rencontres se produisaient, légères ici, plus graves ailleurs. Heures troubles.
Comme le montre son reportage, début décembre 1947, les actes de violence se multiplient. 24 morts donc, dans le déraillement d'un train dans le Nord, mais aussi 3 manifestants tués par la police à Valence. Affrontement avec la police, sabotage, agression de non-grévistes, bagarre dans les manifs. Les nouvelles compagnies républicaines de sécurité, les CRS, connaissent ici leur première vraie mission de maintien de l'ordre. Elles investissent certaines usines et encadrent les manifestations. En tout, 1375 personnes arrêtées font l'objet de poursuites judiciaires, principalement pour entrave à la liberté de travail. Ces arrestations massives donnent confiance aux non-grévistes. Le 29 novembre, le secrétaire général du PCF, Maurice Thorez, revient en France d'un déplacement en URSS. Devant le bureau politique du parti, il laisse éclater sa colère. Selon lui, le mouvement était beaucoup trop soutenu et amplifié, ce qui met le parti dans une situation difficile. Thorez met donc en place une stratégie de retrait progressif. Il faut essayer d'obtenir des avantages, mais faire en sorte que le travail ne reprenne partout. Pour le parti, en effet, il vaut mieux une reprise du travail sans accord qu'un mauvais compromis. Si celui-ci s'avérait inefficace dans les mois à venir, le parti serait accusé de trahison par les ouvriers. C'est donc une position de funambule. Il s'agit de maintenir la mobilisation tout en préparant la reprise. Dès lors, dans les jours qui suivent, des appels au calme se multiplient de concert avec des exhortations à l'action, injonctions paradoxales. Le 9 décembre 1947, le Comité national de grève préconise officiellement une reprise du travail. Dans les bastions ouvriers, le Nord, la Loire ou les Bouches-du-Rhône, c'est la surprise. À l'exception de ces 3 départements, le travail reprend presque dans la foulée. À Marseille, un jeune manifestant de 23 ans, Sylvain Bettigny, est abattu par un policier d'une balle dans le dos. Le samedi 13 décembre, son enterrement clôt un mouvement qui a bouleversé la France et malmené ses institutions dans cette ville qu'il a vue naître. Les ouvriers regagnent peu à peu leur poste de travail. Mock, Schumann et les autres se félicitent. Le gouvernement n'a pas flanché. Les travailleurs, eux, ont pris conscience de leur force collective. En tout, 6 millions de journées de travail perdues au printemps et près de 18 en hiver, soit un manque à gagner phénoménal pour l'économie du pays. Mais cette grève constitue le socle des prochaines. La grande grève générale de 1953 de la fonction publique et puis celle plus connue du mois de mai 68. Dans une déclaration fameuse à l'Anglo-American Press Association en février 1948, Jules Mock déclare
« Les grèves de l'an dernier sont la conséquence d'un ordre lointain visant à créer du désordre dans les régions bénéficiaires de l'aide américaine. Les traducteurs de cet ordre général durent l'interpréter comme les autorisant à faire une expérience à blanc, une répétition générale, quitte, si cet essai réussissait, à l'exploiter jusqu'au bout avec cette souplesse d'adaptation tactique qui est une des caractéristiques de leur manière. »
Évidemment, cette lecture des événements n'est pas du tout celle du PCF qui présente la violence des grévistes comme d'abord défensive. Pour François Billoux, ex-ministre communiste de la Défense nationale, le départ des ministres de son parti en mai 1947 constitue le fait majeur de ces événements.
L'éviction des communistes marqua le tournant vers une politique de guerre froide à l'extérieur et d'abandon de la démocratie à l'intérieur. Ce que les Américains n'avaient pu obtenir à la libération, ils l'obtenaient du gouvernement Ramadier. Les divergences découlaient de l'opposition irréductible entre les intérêts des travailleurs et ceux des capitalistes. De ce fait, la tâche de nos ministres devenait de plus en plus difficile. Pour en finir avec la politique sociale à l'intérieur et la politique étrangère d'entente sur la base de l'indépendance, il fallait écarter les communistes. Ce fut sur injonction américaine qu'ils furent exclus en France, en Italie, en Belgique et au Luxembourg.
En outre, les grandes grèves de 1947 confirment la recomposition durable du paysage politique français. Le PCF est désormais confiné à un rôle contestataire qu'il développe les années suivantes. Pour la CGT, ces grèves entérinent des divisions jusque-là étouffées. Le 19 décembre, à Paris, la tendance minoritaire socialiste atlantiste fait sécession et crée son propre syndicat, Force ouvrière. La CGT affaiblie perd 30% de ses effectifs. De son côté, le RPF s'impose comme une force politique de premier plan, dont l'objectif principal est bien le retour du général au pouvoir et l'établissement d'une nouvelle république. Ce sera chose faite en 1958. Dans les mois qui suivent la grève, les antagonismes entre Est et Ouest sont flagrants et les pays européens prennent position. Pendant de nombreuses années pourtant, la France fait valoir une place originale basée sur une diplomatie forte à l'attention des deux blocs et une indépendance farouche. Peu à peu cependant, le pays se tourne vers un atlantisme toujours plus assumé. Les grèves de 1947, où les lignes de fracture politique et sociale de la France en reconstruction et l'affirmation d'une démocratie retrouvée dans un régime parlementaire.
Il est interdit de salarier un homme. Démission à la moustache du capitaine. L'économie, c'est un truc qui s'enlaille, un truc qui nous rabaisse, un truc qui nous salit. Mais on est plus grand que ça, nous, papy, on a des ailes. Économie, ça veut dire radinerie. Un sou est un sou. Mais nous, on s'en cogne, on va tout voler, on va tout donner comme ça, gratos, ça vous faire brûler. L'économie, c'est la science de l'avarice, le royaume des enclos.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, les grandes grèves de 1947. Notre invité, Robert Mencherini. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Aix-en-Provence, dans les locaux de France Bleu Provence, que nous remercions au passage pour leur accueil. Vous êtes historien, spécialiste du mouvement ouvrier de la Deuxième Guerre mondiale, et vous êtes l'auteur du livre intitulé « Guerre froide, grève rouge », paru aux éditions Sileps. Alors, première question, quel est l'état de la France à la sortie de la guerre, économiquement et politiquement? On va commencer par l'économie. Quelle est la situation?
Alors, économiquement, on est en période de reconstruction, hein, bien évidemment, compte tenu de toutes les destructions qui ont eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale. Reconstruction aussi économique de manière plus large, c'est-à-dire rétablissement de tout l'appareil productif, hein, des entreprises qui ont été détruites, et rétablissement des circuits commerciaux et industriels. Donc, de ce point de vue, on est en période de transition. Hein, c'est la même chose du point de vue politique.
Alors là, du point de vue politique, pardon de vous couper, Robert Mencherini, mais c'est l'occasion d'en parler. Pourquoi écorne-t-on autant cette pauvre 4e République, qui, je le rappelle, a quand même présidé au redressement économique et moral de la France, a mené une politique de décolonisation correcte pour ce qui concerne l'Asie du Sud-Est et l'Afrique noire. Bien sûr, elle est tombée sur l'Algérie. Je rappelle quand même que c'est une République parlementaire, aussi chaotique soit-elle, elle est garante d'une vraie démocratie. Donc pourquoi on lui tape dessus comme ça, cette pauvre 4e République ?
Je crois que ce qui est mis à l'index, hein, c'est l'instabilité ministérielle. Alors, ce qui est vrai, hein, il y a une succession des divers gouvernements.
Et alors, les pays qui nous entourent aujourd'hui sont des républiques parlementaires et, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas des pays retardés, enfin qui fonctionnent bien.
Non, mais je suis pas là pour te défendre.
Non, moi non plus. C'est juste pour dire.
C'est pas mon point de vue, mais c'est pour dire que là, précisément par cette période-là, elle vit vraiment des temps très difficiles.
Bien sûr.
Et par exemple, quand on prend le débat parlementaire que vous avez évoqué, hein, les joutes parlementaires d'aujourd'hui sont peu de choses. Hein, par rapport à ce qui se fait à cette époque-là.
Vu le pouvoir de l'Assemblée nationale, on comprend que c'est peu de chose.
Oui, tout à fait. La période est totalement différente. En tant qu'historien, j'en suis totalement conscient. Hein. Il n'y avait pas de... Vous avez évoqué, par exemple, il y a une forte présence du Parti communiste. Hein. Mmh. Et puis, l'Assemblée était divisée en gros en trois parties, hein, le tripartisme. Vous l'avez aussi souligné, la naissance du RPF qui va petit à petit s'imposer.
Bien sûr, qui va changer la donne au fil des jours jusqu'à sa victoire en 1958. Alors, la CGT et le PC, aujourd'hui, on les imagine promoteurs hein, de la grève. Là, au contraire, ces deux institutions sont dans une espèce de contrôle. Que se passe-t-il? Ils ont peur que le mouvement ne leur échappe et qu'il soit dirigé par des libertaires?
Il y a un petit peu de cette idée, hein, dans la mesure où, lors de la grève Renault, par exemple, ce sont des groupes, qu'on dirait aujourd'hui gauchistes, hein, trotskistes, qui lancent le mouvement. Et donc là, le Parti communiste s'interroge, et la CGT aussi, est-ce qu'on accepte de revendiquer des augmentations au salaire, en contradiction avec la politique gouvernementale, ou est-ce qu'on se plie aux décisions gouvernementales? Mais alors, ça veut dire qu'on perd de l'influence de la classe ouvrière. Et pas n'importe où, chez Renault, hein, qui est quand même le bastion ouvrier, le bastion du PCF et de la CGT. Donc il y a là un choix, et le choix qui est fait, c'est de dire, ben nous allons soutenir les revendications, alors non pas l'augmentation uniforme de 10 francs qui était demandée par les trotskistes, mais des augmentations en fonction de la production, etc. Donc cette position va être considérée comme en rupture avec la discipline gouvernementale.
Le dilemme
Ce qui a provoqué l'éviction des ministres communistes.
Absolument. Alors le dilemme de la France, au lendemain de cette guerre... Quel est-il? D'un côté, on a un modèle social qui est quand même théorisé par le Conseil national de la résistance et auquel ce pays tient. Puis de l'autre, il y a des réalités économiques de reconstruction. C'est ça le dilemme?
C'est peut-être un peu plus compliqué. C'est-à-dire, pendant la période de 44 à 47, si vous voulez, tous les partis, hein, sont d'accord pour reconstruire le pays, même pour le Parti communiste. Hein, il s'agit d'essayer de canaliser les mouvements revendicatifs et les grèves, hein, jusqu'en mai, en mai 47, à la grève Renault. Donc là, c'est une première option, hein, qui est on redresse le pays, mais en ayant toute une série de droits pour la classe ouvrière. Il faut dire que la classe ouvrière est en position de force.
À l'époque,
parce que bon, si vous prenez par exemple la région de Marseille, à cette époque-là, vous avez 15 entreprises qui sont en gestion ouvrière. C'est pratiquement dirigé par la CGT. Ça fait 15 000 ouvriers. C'est-à-dire toute la réparation navale, les entreprises portuaires, etc. Donc une position de force certaine, avec un patronat qui est sur le recul. Donc une avancée du point de vue ouvrier. Et où ça va se compliquer, justement, c'est en 47, en fonction à la fois d'événements internationaux, que vous avez évoqués, hein,
la
naissance de la guerre froide, et puis aussi en fonction d'événements politiques, c'est-à-dire la poussée RPF à ce moment-là.
Alors, poussée RPF, effectivement, et on a donc les deux autres grands partis SFIO, ancêtres du Parti Socialiste, le RPF, oui. Ancêtres des centristes, hein, sont des partis plutôt atlantistes ou libéraux ou sociodémocrates, et puis vous avez le PC qui va chercher. Alors, est-ce que le PC va vraiment chercher ses ordres à Moscou, à cette époque-là?
Bon, alors aujourd'hui, c'est un peu une tarte à la crème, hein, de dire que le Parti communiste est inféodé à Moscou, ce qui est une réalité. Hein. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un lien très très étroit entre le Kremlin et l'orientation du Parti communiste. Maintenant, ça ne veut pas dire que, si vous voulez, Staline appuie sur un bouton et l'ouvrier communiste de base obéit. C'est
oui.
Là où les choses se compliquent. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, pendant les grèves, Maurice Thorez rencontre Staline à Moscou, et Staline qui est très critique par rapport aux grèves.
Pourquoi ?
Et qui dit à Thorez, mais qu'est-ce que vous faites ? C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Hein. Parce que à ce moment-là, l'option de Staline, hein, c'est une option de grande puissance. Hein. C'est-à-dire, qui est de dire comment est-ce qu'on peut empêcher le développement de l'hégémonisme américain. Hein, du plan
c'est ça,
Marshall.
Donc produisez de votre côté, faites en sorte que votre économie soit florissante pour vous opposer aux Américains. C'est ça en fait que veut Staline.
Mais même mieux que ça, c'est de s'allier au patronat. S'allier au patronat démocrate, anti-américain, etc. Ce qui sera, de fait, très difficile. Hein. Mais c'est en gros les consignes que Staline donne à Thorez. Donc quand Thorez revient en France, hein, ainsi que vous l'avez évoqué à la fin novembre, il va se trouver face à la grève, et que faut-il faire à ce moment-là? C'est pas du tout les consignes qui ont été données par Staline.
Alors, on est, on le répète, on est au début, vous l'avez évoqué aussi, de la guerre froide, qui va durer quand même un certain nombre de décennies. On va écouter une archive ensemble. Il s'agit d'un extrait de documentaire de 1986 qui parle de Truman, le président américain, et du début de la guerre froide, justement.
Avant même que la guerre contre l'Allemagne soit finie, Truman avait décidé que le communisme serait un danger aussi grand que le nazisme. Staline, un ennemi aussi implacable qu'Hitler. Mais on n'osait pas encore dire ces choses ouvertement, entre alliés. Aussi, c'est par un article de la revue Foreign Affairs, rédigé par le conseiller du président George Kennan, que le monde apprit un beau matin que l'Amérique considérait désormais la Russie comme une menace qu'il fallait endiguer. C'était la doctrine du containment, qu'exposerait bientôt sans détour le secrétaire d'État Hutchison.
Comment la guerre froide est-elle née, finalement ?
C'est né... à propos du partage du monde, hein, en zone d'influence. Alors certains la font démarrer déjà à Yalta, mais de fait c'est un peu plus tardif. Mais déjà vous avez le discours de Churchill, hein, le fameux discours du rideau de fer, et ensuite les positions de Truman, et puis le plan Marshall, qui est explicitement une politique de containment, hein, d'arrêt du communisme. Donc cette tension international divise le monde en deux blocs. Et le Parti communiste, à ce moment-là, va hésiter. Puisque lui est toujours, pratiquement jusqu'à l'été 1947, hein, il est toujours sur une politique d'union. À la fois union tripartite en France et union au niveau international. Quand on prend les textes du congrès de Strasbourg du Parti communiste pendant l'été 1947, c'est évident. et il espère toujours revenir au gouvernement. Donc il hésite jusqu'à la fameuse rencontre de Pologne, hein, qui va créer le Cominform, le bureau d'information des partis communistes, où là, il va subir une sérieuse, très très sérieuse critique, hein, à la fois de la part des soviétiques, mais aussi des Yougoslaves en particulier. Il leur pardonnera pas. Hein.
Qu'est-ce que Truman a derrière la tête lorsqu'il propose le plan Marshall aux Européens? Est-ce que c'est effectivement, on est dans la logique de la zone d'influence où il y a une volonté sincère d'arrimer les pays européens au développement économique occidental et libéral?
C'est toujours difficile, hein, au niveau des relations internationales, savoir ce qui relève de l'intention ou de la réalité. Bon, il y a, de toute manière, il y a la nécessité d'un développement économique, hein, de l'Europe à ce moment-là, et la volonté de freiner aussi l'avancée du communisme, qui, dans certains textes, est bien indiqué que le communisme naît du développement de la misère. Bon, donc là, la position américaine conjugue les deux, à la fois le développement économique, et les États-Unis aussi ont intérêt économiquement à avoir une Europe qui se redresse rapidement, et politiquement une Europe stable.
Pourquoi cet épisode des grèves, à votre avis, est-il assez peu raconté? Qu'est-ce qui se passe? Et on considère que c'est pas fondateur, alors que quand on va dans le détail de cette affaire-là, c'est assez fondateur de l'identité économique et politique et sociale de la France.
Bien sûr, c'est quelque chose de très important, parce que ça met fin d'abord à la politique d'union nationale, hein, qui a été pratiquée jusqu'à l'été 47. Ça met fin à cette union nationale-là. Ensuite, ça divise le mouvement syndical, hein, la naissance de Force ouvrière.
Et oui.
Donc, et c'est le début d'un éclatement du mouvement syndical qui va se poursuivre par la suite. Et aujourd'hui, on assiste à une espèce de monde syndical en expansion, avec des scissions qui vont se succéder. Et le début est en 47, et puis aussi le Parti communiste, à partir de ce moment-là, va être dans l'opposition, hein, jusqu'en 80, jusqu'à la victoire de Mitterrand à la présidence, où là, il va redevenir un parti de gouvernement. Mais pendant toutes ces années, sera un parti qui sera dans l'opposition. Alors dans l'opposition à la fois sur le plan économique, revendicatif, mais aussi dans l'opposition sur les problèmes coloniaux. Qui vont peser très très lourd dans la 4ème République. La question que vous posez au départ, c'est quelque chose qu'elle a mal géré, ça, la 4ème République.
Ah bah oui, enfin, pour la question algérienne. La question de l'Indochine a été mieux gérée par Pierre Ménès-France, quand même.
Ah oui, non, mais ça, c'est vous avez diverses périodes dans la 4ème.
Ah oui.
Mais c'est quand même la guerre d'Algérie qui va faire tomber la 4ème.
Bien sûr, bien sûr. Quand même, on est étonné des mesures prises par le gouvernement. C'est l'assommoir, quand même, les augmentations là, telles qu'on les a énoncées. Pendant le récit, paraît tout à fait surréaliste. On est sur des augmentations de 50% sur des produits de première nécessité. Comment le gouvernement a-t-il pu imposer une politique qui va au-delà de la rigueur?
Je crois qu'il y a un raidissement là, des deux côtés, hein, à la fois du côté CGT, Parti communiste, et de la part des autres partis. C'est alors à la fois au niveau économique, il ne faut pas céder, hein. Souvent on trouve ça dans les grèves, hein. C'est-à-dire il y a ce durcissement qui mène parfois à la catastrophe. Il ne faut pas céder, et ensuite il faut être très très ferme également au niveau politique. Ce sont les fameuses lois qui ont été appelées les lois scélérates, hein, qui entraînent un débat absolument extraordinaire à l'Assemblée nationale.
Toute dernière question, il nous reste que 30 secondes. La situation était-elle insurrectionnelle en France? Parce que quand on se souvient du récit, là, il y a quelques minutes, c'est quand même très très chaud, hein, dirait-on, aujourd'hui.
Alors c'est très très chaud, il y a des violences très très... très très sanglante, hein, de fait, des manifestants qui sont tués, un train qui déraille avec des morts, si vous voulez, j'ai mis, par exemple, dans le titre de mon ouvrage, insurrectionnel, entre guillemets. Pourquoi? Parce que je m'appuie sur un grand connaisseur en la matière, qui n'est pas apprécié de tout le monde, bien évidemment, c'est Jules Mock.
Ah bah oui, on a parlé.
Jules Mock. Bon. ministre, ministre de l'Intérieur.
En une phrase, pardon de vous bousculer, mais c'est vraiment l'heure, en une phrase. C'était presque insurrectionnel, on peut le dire?
Il y avait des militants du PC qui pensaient que on était en période d'insurrection. Ce qui n'était pas le cas de la direction du PC. Et donc le problème, ça va être celui-ci. Et un test sur la période insurrectionnelle...
Oui.
Pardon?
Il faut vite conclure, s'il vous plaît, parce qu'on est vraiment en retard là.
Le test sur la période insurrectionnelle, c'est que les militants communistes n'ont jamais utilisé d'armes à feu, par exemple. C'est ce que dit Jules Moc.
Bon, donc ça sera le dernier mot. Pardon de vous avoir bousculé, merci en tout cas pour tous les éclairages que vous avez apportés à cette histoire passionnante. Robert Mencherini, merci, au revoir.
Merci.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, 1947, la grève oubliée. Je vais très vite car nous sommes très en retard. Merci à Loïc Frapsos qui était à la technique aujourd'hui.